Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut de sondage Polling Vox et conseiller du RN. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
On va parler avec vous de Bruno Retailleau, parce qu'il faut se souvenir de ce qu'a dit Bruno Retailleau ces derniers jours. Et il a mis ce qu'on appelle un coup de pression dans le bras de fer avec l'Algérie. Il met même sa démission du gouvernement dans la balance. Si on me demandait de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité des Français, évidemment je le refuserais, dit-il. Je ne suis pas là pour une place, mais pour remplir une mission. C'était chez nos confrères du Parisien. Alors est-ce qu'il a raison, Bruno Retailleau? Doit-il claquer la porte si ça ne va pas dans son sens?
Bruno Retailleau, il n'a pas que des qualités, il ne présente pas que des avantages, mais je pense que s'il démissionnait maintenant, ça serait une mauvaise chose. Je pense que ça serait une mauvaise chose d'abord parce qu'on est dans une période convulsive, notamment sur le plan international, et je crois que ce qui va se passer dans les jours qui viennent, ça noircira encore le paysage, et que de ce point de vue, si Retailleau s'en allait, il y aurait une crise ministérielle, gouvernementale grave, peut-être la fin du gouvernement, et donc qu'on serait affaibli à un moment où on a plutôt besoin d'être solidaire. La deuxième chose, c'est que je pense que s'il s'en allait de lui-même, hein, puisque c'est ça l'hypothèse, s'il s'en allait de lui-même, ça serait complètement paradoxal, puisque par exemple, sur le sujet qui est le plus symbolique, on en reparlera peut-être, et qui sont les rapports entre la France et l'Algérie, c'est sa thèse qui a gagné. Il y avait deux camps, il y avait ceux qui étaient partisans de discussion et de modération dans ce qui est quand même une confrontation de toute façon, et ça c'était Emmanuel Macron et c'était Jean-Noël Barrot.
Le ministre des Affaires étrangères.
Voilà, c'est toujours bien de le préciser, parce qu'on peut confondre avec son père. Et puis, il y avait Retailleau qui a, en fait, imposé sa thèse. Donc, puisqu'il a imposé sa thèse, ça serait paradoxal. Puis la dernière chose, c'est aussi, égoïstement de son point de vue, que d'être au ministère de l'Intérieur, politiquement, ça l'a incroyablement renforcé. Il était le président du groupe sénatorial de LR au Sénat, c'est extrêmement honorable, c'était d'ailleurs un bon président de groupe, ses troupes étaient disciplinées, mais voilà, c'était un président de groupe au Sénat. Alors maintenant, c'est le plus populaire des ministres, et visiblement, son action, ou en tout cas son style, ou sa façon de s'exprimer, ça plaît aux Français.
Oui, effectivement, M. Retailleau a beaucoup profité de sa nomination comme ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas le premier. Ça fait au moins depuis 2002, depuis la nomination au ministère de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, que ce poste profite parfois beaucoup à ceux qui l'occupent. Par exemple, entre-temps, Manuel Valls, tout simplement, parce qu'il y a une demande d'autorité qui est très forte. Et on voit d'ailleurs, dans le dernier sondage, et là, peut-être pour vous d'ailleurs, que dans le dernier baromètre, on voit que François Bayrou a du mal, alors que le président de la République et M. Retailleau, donc sur la politique étrangère et sur l'intérieur, eh bien, progressent. Parce qu'il y a bien cette demande-là. Tout le problème est de voir la comparaison, ce que je vais essayer de faire tout de suite, entre l'itinéraire qu'a suivi Nicolas Sarkozy, qui est très clairement le modèle de M. Retailleau au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, et justement, M. Retailleau. La situation est très différente. À l'époque, Nicolas Sarkozy incarnait une droite qui pouvait agir, parce qu'elle était au gouvernement, et lui a montré qu'elle voulait agir. Et c'est comme ça qu'il a réussi une véritable déflagration dans l'opinion en 2002. J'étais à l'époque à BVA. De mémoire, en 6 mois, son score de bonne opinion est multiplié par 3. Il passe de 20 à 60. C'est absolument incroyable, ça s'était jamais vu. Parce qu'on avait enfin quelqu'un à droite qui pouvait et qui voulait. Aujourd'hui, M. Retailleau montre qu'il veut, semble-t-il, qu'il veut faire. Mais peut-il faire ? Il n'a pas du tout une majorité pour cela. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est, je vais vous laisser continuer, mais c'est pour cela aujourd'hui qu'il est déjà engagé dans une forme de chantage à l'égard de son propre Premier ministre en disant
« Laissez-moi faire,
sinon je m'en vais ». Au risque d'ailleurs de donner à beaucoup de Français l'impression qu'il cherche à sortir le plus rapidement possible de sa impasse et à précipiter donc son propre gouvernement dans une nouvelle crise.
Alors je m'attendais tout à fait à ce que vous fassiez la comparaison avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, parce que c'est effectivement parmi les ministres de l'Intérieur celui qui a tiré le plus grand profit à la fois, quand il était ministre de l'Intérieur, de son style et de son action. Et il faut même préciser au passage qu'il l'a fait alors même qu'il était en conflit ouvert avec Jacques Chirac, président de la République. Bruno Retailleau, évidemment, regarde ce modèle-là. C'est, de son point de vue, c'est tout à fait normal. On ne peut pas du tout dire que Nicolas Sarkozy a réussi quelque chose et que Bruno Retailleau l'a raté, parce que Nicolas Sarkozy a réussi quelque chose. Mais Retailleau, on ne peut pas dire qu'il l'ait raté. Il est là depuis très peu de temps, il est là depuis François Bayrou, il est là depuis trois mois.
Il n'y a pas de bilan Retailleau encore.
On ne peut pas regarder son tableau de chasse en disant voilà ce qu'il est arrivé à faire en si peu de temps.
Il est là depuis Barnier.
En revanche, on voit ses intentions et on voit quels sont les moyens non seulement qu'il demande, mais qu'il exige et qu'il obtient. Ben oui, mais les ministres de l'Intérieur n'ont pas obtenu ce qu'ils qu'ils voulaient, hein, tant s'en faut.
Je vous entends bien, M. Duhamel, mais ces moyens ne sont pas des moyens techniques, c'est des moyens politiques.
Pas seulement.
Et là, il s'est placé dans une situation quand même très compliquée. Que faisait Nicolas Sarkozy ? Il entendait convaincre la droite au pouvoir, la droite chiracienne, d'agir comme ce qu'il pensait être devoir faire la droite. M. Retailleau, lui, s'est mis dans une situation très bizarre. Quelle est la fonction de M. Retailleau politiquement ? Essentiellement, de permettre à ce que la politique continue sans le Rassemblement national et sans Marine Le Pen, à restaurer, à maintenir cette espèce d'alliance macrono-droitière. Eh bien, c'est une impasse. C'est une impasse parce qu'il n'a pas de majorité pour la politique qu'il veut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vit déjà, fait quand même quelques mois qu'il est au ministère de l'Intérieur, qu'il est à Beauvau, on vit déjà dans une période de crise perpétuelle. Parce qu'il n'a pas la majorité pour cela. La majorité du gouvernement dont fait partie M. Retailleau, c'est une majorité qui a été élue il y a quelques mois avec une alliance avec la gauche avec les macronistes.
Mais même s'il avait la majorité, sa question, c'est l'Algérie, parce que tout dépend de l'attitude du régime algérien.
C'est la question la plus spectaculaire aujourd'hui, et c'est une question d'ailleurs extrêmement difficile à traiter de façon efficace. Dans cette affaire, il y a eu deux attitudes. L'une, je le disais, d'Emmanuel Macron et de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères.
Je ne suis pas sûr que tous les Français connaissent le nom des ministres actuels, ça a beaucoup bougé quand même.
Mais il y en a qu'on voit plus que d'autres.
Comme Bruno Retailleau.
Bon. Et alors, eux sont partisans, non pas de la conciliation, mais de la négociation et d'essayer de trouver des compromis, etc. Bruno Retailleau, ce n'est pas du tout sa thèse. Sa thèse, c'est qu'il y a en France un certain nombre de personnes qui sont dangereuses, parce que ça a été mesuré, qui ont été condamnés, on veut pouvoir les renvoyer. Et il est prêt, et il le dit, mais il le fait aussi, une épreuve avec l'Algérie. Je ne suis pas du tout sur la ligne, il faut absolument démontrer sa force, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace dans l'histoire. Mais, en tout cas, c'est l'attitude de Bruno Retailleau. Et là, de deux choses l'une. Ou bien il obtiendra qu'effectivement, des condamnés en France soient renvoyés en Algérie.
Il y a une soixantaine de noms sur sa liste, il n'y a que six semaines. Hein.
Oui, oui, et la liste a été présentée. Ouais.
Bon, si jamais, vite, hein.
S'il l'obtient, il aura marqué un point. S'il ne l'obtient pas, ce qu'il a déjà exigé du gouvernement, par une méthode d'ailleurs, il faut bien dire, assez inhabituelle en elle-même, d'autant plus qu'elle est publique. Mais ce qu'il a exigé, c'est à ce moment-là qu'on aille jusqu'à la dénonciation de l'accord de 68. Bon, qui est, parce que tout le monde ne le connaît pas par cœur, qui est un accord, disons,
favorable,
spécifique et privilégié entre la France et l'Algérie au bénéfice de l'Algérie.
Pour des raisons historiques liées aux accords d'Évian, en fait.
Ou il gagne, et c'est bon pour lui, ou bien ça va effectivement à ce moment-là à un durcissement des relations, et vis-à-vis des Français, il aura le beau rôle, il aura le rôle de ceux qui défendent leurs intérêts contre des gens qui,
mais
eux,
pas mettre la démission tout de suite dans la balance.
C'est sa méthode.
Excusez-moi de renchérir un petit peu sur ce que vous venez de dire, mais d'en tirer une conclusion un peu différente. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que nos relations avec l'Algérie sont illustratives de notre faiblesse dans la question notamment des OQTF.
Et comme surtout notre inefficacité.
Le gouvernement algérien étant très agressif dans dans ses propos à l'égard de la France, en fait, on est quasiment contraint à la fermeté. Tout cela a été démontré par les écrits et les prises de parole de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui nous a beaucoup d'ailleurs alerté sur l'existence de ces accords de 1968, qui, même s'ils sont liés en réalité aux accords d'Évian, ont des conséquences aujourd'hui catastrophiques et potentiellement encore pires en termes d'immigration. Ceci étant, moi je suis très serein, vous voyez, par rapport à M. Retailleau, parce que la logique de son parcours, sa trajectoire en réalité, devrait l'amener inéluctablement à la démission. Et il aura ainsi fait la preuve...
J'ai cru que vous alliez dire au Rassemblement National.
Non, mais aussi, peut-être.
Non, parce que je ne pense pas que ce soit sa fonction politique, malheureusement. Mais c'est simplement cette conclusion, qui est presque inévitable, fera simplement la démonstration que rien ne se peut se faire sans une majorité élue avec un mandat clair en matière migratoire et sécuritaire.
Oui, mais Emmanuel Macron, est-ce qu'Emmanuel Macron le suivra dans la dénonciation des accords 68? A priori, non.
De toute façon, ça n'est pas Bruno Retailleau qui peut dénoncer les accords. Il n'y a qu'Emmanuel Macron qui puisse le faire.
Il paraît que non, il y a débat, parce qu'ils disent qu'au niveau gouvernemental, c'est possible de les dénoncer.
Non.
C'est
possible de discuter de l'application de telle ou telle chose. Alors, on sait très bien, en utilisant les moyens réglementaires, on peut beaucoup compliquer l'application d'un traité. Mais le traité, constitutionnellement, la négociation des traités, ça dépend du président de la République.
Donc ça peut se transformer en bras de fer entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron.
Mais c'est déjà indirectement de ce qui se fait.
Mais publiquement, j'ai envie de dire.
Mais c'est déjà publiquement, en réalité. Quand Bruno Retailleau dit « je tiens absolument à cet objectif sur l'Algérie », mais aussi sur d'autres, sur d'autres objectifs, quand il dit « j'y tiens absolument », et quand on lui demande à nos confrères de Parisiens, ce qui est tout à fait normal, et si vous n'obtenez pas satisfaction, vous démissionnez, et qu'il répond oui, à qui est-ce qu'il s'adresse? Il ne s'adresse pas du tout à François Bayrou, d'autant plus que François Bayrou est plutôt sur sa ligne, en ce qui concerne l'Algérie, et en général en ce qui concerne l'ordre. Bon, mais il s'adresse à Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que c'est assez amusant que vous ayez pris, je m'y attendais tout à fait, l'exemple Sarkozy-Chirac, parce que Sarkozy s'émancipait vis-à-vis de Chirac en menant sa politique de ministre de l'Intérieur hyper populaire, et que là, en réalité, Bruno Retailleau veut faire la même chose, s'émancipe et gagne en popularité. Mais alors, moi, je vois bien aussi, parce qu'il ne faut pas être naïf ou candide, je vois bien pourquoi vous voulez absolument démontrer que Bruno Retailleau n'y arrive pas.
S'il gêne Marine Le Pen.
Évidemment, il gêne le Rassemblement National.
Si, Jérôme Sainte-Marie,
c'est sûrement des ministres, celui qui est le plus populaire dans l'électorat du Rassemblement National.
Monsieur Duhamel, sûrement. Si mes propos ne vous surprennent pas, moi, inversement, votre indulgence à l'égard de Monsieur Retailleau, moi, m'étonne un petit peu.
Oh, c'est pas mon indulgence.
Pour une raison, tout
non,
ça.
Non, non, mais c'est pas mon indulgence, d'abord.
Attendez, je finis juste. Vous que je connais éclairé et libéral et modéré, je suis un peu surpris, parce que je pense que Monsieur Retailleau, voyez-vous, ça peut peut-être vous surprendre, se place dans une position où en fait il ne peut pas mener la politique qu'il prône, parce qu'il n'y a pas la majorité pour cela, ce qui le contraint à une surenchère verbale qui m'inquiéterait presque, voyez-vous, alors que je suis ici le formateur du Rassemblement National.
Plutôt ciel qu'il n'y ait jamais pire.
Vous trouvez qu'il va trop loin?
Je pense qu'il sera entraîné probablement dans une surenchère verbale, dans une certaine violence verbale, qui ne fera de bien à personne, tout simplement parce qu'il ne peut pas agir concrètement. Je préfère des gens qui sont élus avec un mandat clair, qui peuvent l'appliquer, parce qu'ils ont la majorité pour le faire. Lui, il rentre dans une logique de politique spectacle qui va l'amener à certaines outrances, avec une inefficacité à la fin.
D'accord, alors deux choses.
Et sans doute la démission.
Alors, d'accord, deux choses. Un, je n'apprécie pas particulièrement son style. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, parce qu'il est cohérent avec lui-même, qu'il est sincère, qu'il est stable dans ses choix. Ses choix, ce n'est pas ceux que j'adore. Je n'ai pas accroché dans ma chambre un poster de Bruno Retailleau.
Pas encore.
Je ne crois pas, j'ai un peu passé l'âge des posters, il faut dire. Bon, mais votre antienne, en parlant de lui, c'est au fond, il échoue. Et moi, ma réponse, c'est, ça n'est pas pour moi l'idéal de l'idéal, mais il commence, il essaie, attendons. On ne peut pas dire qu'il échoue.
Il faut qu'il y ait des résultats,
Non, mais pas au bout de trois mois, enfin.
Non, mais sur cette question algérienne, il l'a tellement médiatisé, il a tellement mis en scène ce bras de fer, que si jamais, dans six semaines, le régime algérien dit « on n'en reprend aucun »,
je ne suis pas d'accord.
Il sera ballot, là.
Je ne suis pas d'accord. Ou bien il obtient satisfaction, Enfin, vous voyez... ce qui serait très bien s'il obtenait satisfaction. Et dans ce cas-là, il faudra le lui reconnaître. Ou bien il n'obtiendra pas satisfaction. À ce moment-là, il montera encore d'un cran et je pense qu'il aura l'opinion pour lui.
Oui, mais vous voyez bien qu'il n'a pas l'opinion. Certainement, l'opinion, de toute façon, réclame en vain depuis des décennies des mesures plus strictes en matière d'immigration. Là aussi, sondage Elabe, je crois, pour BFM TV en plus.
Oui, non, mais ça, on le sait. Récemment.
Oui, mais on le sait. Or, ça n'aboutit pas parce qu'il n'y a pas une majorité pour cela. Oui. Si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est qu'on le voit actuellement sur
mais Jean de Sainte-Marie, même s'il y avait une majorité, si le régime algérien dit je ne veux pas les reprendre.
Je pense que si on avait une majorité Rassemblement National, justement, et ses alliés, les relations diplomatiques seraient peut-être même plus simples et plus apaisées avec le gouvernement algérien qui saurait à quoi s'en tenir. Là, le gouvernement algérien, il sait très bien qu'il a face à lui gouvernement très faible, avec une, une majorité très fragile, comme on le voit sur comme on le voit aujourd'hui même, dans les heures où on se parle, sur un autre dossier qui est également lié à la place Beauvau, la question du narcotrafic. On voit bien que le texte, qui était très sévère, qui vient du Sénat, emporté par un sénateur,
c'est-à-dire de Rotaillot,
et PS, est en train d'être tricoté par des élus, députés de la majorité présidentielle.
Et même aussi du RN.
La majorité présidentielle, vous voyez bien que ça ne peut pas tenir.
Alors, d'abord, vous êtes persuadé que ça ne peut pas tenir, on n'en sait rien.
Regardez l'exemple du narcotrafic aujourd'hui.
Attendez de voir le vote final. Attendez de voir le vote final. Vous ne pouvez pas me dire ce qui sera exactement.
Des mesures qui risquent quand même d'être...
Je pense que M. Rochaillot s'est mis dans une situation politique impossible et il n'a pas la majorité pour cela.
Non mais je ne vous dis ni que c'est une situation politique simple, elle ne l'est pas. Ni que c'est une situation politique très durable, elle ne l'est pas non plus. Mais il ne faut pas caricaturer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent rien faire. Ça n'est pas vrai.
Édouard Philippe dit qu'il ne fait pas grand-chose quand même, ce gouvernement Bayrou.
Mais ça, c'est autre chose. C'est la guerre entre François Bayrou et Édouard Philippe. On a bien compris que l'un et l'autre avaient choisi leur bouc émissaire, d'un même mouvement. Ils ont choisi un duel. Pourquoi ces deux-là plus que deux autres ? Je n'en sais rien, mais ils ont choisi. Visiblement, quand l'un dira quelque chose, l'autre dira le contraire. Mais politiquement, ça n'a pas une grande importance. De toute façon, l'atout maître en ce moment de François Bayrou, ça n'est pas ce qu'il dit, surtout qu'il ne le dit pas très bien. Ça n'est pas ce qu'il fait. C'est que la situation est tellement grave qu'on n'a pas envie de tout flanquer en l'air en plus.
Merci Alain Duhamel. Merci Jérôme Sainte-Marie.